Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le numéro 17 du magazine Histoire et Civilisation est dans les kiosques. Parmi toutes sortes d'articles sur Bismarck, sur Auguste et sur la Saint-Barthélemy par exemple, il consacre un dossier sur la légende des abancérages. Franck Ferrand y a trouvé l'inspiration. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Cet article s'intitule « Un crime à l'Alhambra » et il nous plonge au cœur d'un sombre épisode de l'histoire de Grenade. Je vais vous raconter ça dans un instant, en préambule à notre visite d'une exposition sur les jardins d'Orient.
Une exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 25 septembre à l'Institut du Monde Arabe,
oui,
à Paris.
Et que Lorena et moi avons visité ce matin de bonne heure. L'une des commissaires, Agnès Carayon, est avec nous dans ce studio. Elle a des merveilles à nous faire découvrir.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Emma qui veut en savoir plus sur les origines du passeport.
Avec l'arrivée de la belle saison, je vous sens d'humeur voyageuse, Anissa.
Eh
bien,
c'est vrai.
Pour vous faire patienter, laissez-moi vous emmener aujourd'hui par la pensée, mais c'est déjà pas mal, dans un des plus beaux coins d'Europe.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
L'ensemble palatial qu'on appelle l'Alhambra de Grenade, Alhambra en arabe ça veut dire la rouge, parce qu'au coucher du soleil, ces pierres très chaudes se teintent d'un rouge sang extraordinaire. Cet Alhambra constitue sans doute un des lieux les plus raffinés, les plus harmonieux de l'Espagne méridionale, de cette Andalousie qui en compte tellement d'autres. Sa position éminente, ça fait comme une sorte d'acropole qui émerge de la verdure, la perfection des lignes, des proportions, l'orfèvrerie de toutes ces dentelles de marbre, et puis le charme luxuriant des cours et des jardins où roucoulent des fontaines. Tout ça contribue à faire de cet ensemble, digne d'un conte oriental, l'un des plus sublimes témoignage de l'architecture arabo-musulmane et de la douceur de vivre d'Al-Andalus. Et pourtant, si j'en crois l'article d'Antonio Pélez Rovira dans ce numéro donc d'Histoire et Civilisation, hein, le magazine Histoire du Monde, c'est au cœur de cette merveille apaisante que le roi Muhammad IX, qu'on connaît en Occident sous le nom de Boabdil, c'est dans les cours merveilleuses de l'Alhambra de Grenade que Boabdil aurait fait massacrer la puissante lignée des abancérages. Et l'on raconte que de la fontaine de la salle des abancérages coulait ce jour-là non plus de l'eau, mais du sang. On est bien sûr, et je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre la violence de ce que je vais vous raconter dans un instant, nous sommes exactement quelques années avant la chute de Grenade. Vous savez, Grenade est prête à tomber aux mains des Castillans, les rivalités des clans grenadins se mêlent dans cette affaire aux luttes entre chrétiens et musulmans. On est dans une période de guerre et de guerre intense. Alors, l'épisode sanglant qui nous intéresse, est relaté dans la première partie des guerres civiles de Grenade. C'est un roman qui est publié un bon siècle plus tard, on est en 1595, roman de Ginés Pérez de Hita, roman qui est assez légendaire bien entendu, c'est un roman, mais sur fond de réalité historique. Et c'est aujourd'hui très difficile pour les historiens de faire le départ au sein de cette grande saga, si j'ose ainsi m'exprimer pour un roman méridional, d'y faire la part de ce qui relève de l'histoire pure et de ce qui relève évidemment de la tradition, de la légende, pour ne pas dire même de l'imagination pure et simple. Ginés Pérez de Hita aimait les romances, vous savez, il fait partie de ces auteurs qui écrivaient des romans de chevalerie, hein. Il était bien sûr écrivain, mais il était aussi artisan en temps de paix et soldat en temps de guerre. Il s'est battu dans la guerre des Alpujarras contre les Maures rebelles. Alors, c'est lui qui nous raconte donc cette grande trahison des aigris et des gomelles. Les aigris, c'est pas les gens aigris par je ne sais quelle jalousie, quoique ce sont les aigris, ça commence par un Z. Et ils ont commis, dit-il, une trahison contre la reine Maure et les chevaliers abancérages et la mort de ces derniers, vous allez voir dans quelles conditions. Au début du roman, l'auteur détaille tous les préparatifs de l'attaque d'une ville chrétienne d'Andalousie qui s'appelle Jaén. Et là se rendent Boabdil, donc, qu'on appelle El Chico, dans le roman, et son frère Moussa, accompagné d'un certain nombre de dignitaires, de plusieurs tribus ou lignées. Il y a 160 chevaliers à bon serrage, nous dit Pérez d'Erita, et autant d'Alabèzes. Il faut se familiariser à toutes ces lignées arabes d'Al-Andalus. Les chevaliers d'élite, et avec eux tous les vanègues, nous dit-il, ainsi que des chevaliers aigris, Gomel et Maza. Donc la bataille va affronter tous ces grands guerriers qui sont censés se battre sous le commandement de Boabdil. Et bien entendu, ils vont se battre contre des chevaliers chrétiens et ils perdent la bataille. C'est un anéantissement, ça se passe extrêmement mal. Seul le courage des chevaliers à bon serrage va éviter un anéantissement total. Et le sultan décide de se retirer, nous dit l'auteur, de se retirer une journée pour se reposer dans une maison de plaisir qu'on appelait Ali Hares. Et peu de gens l'accompagnèrent, c'était les aigris et les gomelles, justement, c'est-à-dire les véritables ennemis des abencérages. Il y a un chevalier aigri qui affirme que les chrétiens, qui donc ont été les vainqueurs dans ce combat terrible, les chrétiens se sont montrés, dit-il, beaucoup plus valeureux que les abencérages. Et il dit ça devant le sultan, qui prend la défense de ses alliés. À quoi le aigri répond que les abencérages sont des traîtres, qu'ils trahissent quotidiennement la couronne et qu'il est grand temps qu'on se méfie d'eux et même qu'on les écarte. « Sache, puissant roi, dit-il, que tous les chevaliers à bon serrage se sont ligués contre toi pour te tuer et s'emparer de ton royaume. Et cette audace leur vient de ce que notre reine est amoureuse d'un abencérage nommé Albin Hamad, qui est l'un des plus riches et des plus puissants chevaliers de Grenade. » Ah, ça, évidemment, c'est un argument qui, jusqu'alors, faisait défaut au sultan. Évidemment, il va changer d'avis à partir de ce moment. Et le Ségri renchérit, il dit « Tout abencérage est un roi, un seigneur, un prince. Il n'est pas une personne à Grenade qui ne les adore. Ils sont bien plus aimés que votre majesté. » Ça commence à faire beaucoup. Boabdil décide dès lors que les abencérages doivent mourir. Quant à la reine, dit-il, pour ce qui la concerne, elle périra par le feu.
Avec cet extrait de la bande originale du film La Folie des Grandeurs, c'est une musique signée Michel Polnareff. Nous nous intéressons à l'un des plus beaux monuments de l'architecture arabo-musulmane. Cet après-midi, effectivement, nous sommes au jardin de l'Alhambra avec cette histoire qui nous amène au 15e siècle. Cet assassinat, Franck.
Oui, un assassinat dans un lieu totalement merveilleux. Évidemment, il y a un contraste très grand entre la splendeur de cet Alhambra de Grenade et la noirceur, pour ne pas dire même un peu la rougeur de ce que je vais vous raconter maintenant. L'Alhambra, encore une fois, c'est le siège de la cour des rois Nasrides. On est sur la colline de la Sabika qui domine toute la plaine et toute la ville de Grenade. Et l'on peut dire que l'Alhambra, enfin cet ensemble palatial qu'on appelle l'Alhambra, avec la grande mosquée de Cordoue tout de même, tout à fait merveilleuse et presque indépassable dans sa somptuosité architecturale, constitue le témoin le plus prestigieux de cette présence musulmane dans l'Espagne des 8e au 15e siècle. Alors on est tout à la fin. Les musulmans ne sont plus pour longtemps à Grenade. Simplement, ils y sont assez longtemps pour permettre à Boabdil, pour permettre à ce sultan de commettre le crime terrible. Il convoque les traîtres dans la cour des lions de l'Alhambra, superbe cour avec cette grande fontaine centrale, une grande fontaine circulaire tenue supportée par des lions de granit absolument magnifiques. Le jour précédant la convocation, le roi n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il est dans un état d'excitation et de colère qu'il n'arrive même plus à contrôler. Il essaie néanmoins de prendre sur lui et au petit matin, il se rend donc dans cette somptueuse cour des lions. Là l'attendent le fameux aigri dont je vous parlais depuis tout à l'heure, celui qui est un peu à l'origine de la décision royale, accompagné de 30 chevaliers qui font partie de la garde rapprochée du sultan et d'un bourreau. Le grand vizir du royaume, il s'appelle Abenkarax, est appelé. C'est un page qui va le chercher, qui l'amène le premier dans la cour. Et là, on se saisit de lui avant même qu'il ait eu le temps de dire un mot. Et il est décapité au-dessus du bassin d'albâtre. C'est le début de ce qui va être un assassinat en série, si je puis dire. 36 abencérages vont être exécutés, dont l'amant présumé de la reine Morazella, dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est sans doute ce qui a emporté la décision du sultan. C'est un épisode épouvantable. Il faut imaginer cette cour complètement dans laquelle on nage littéralement dans le sang. C'est un assassinat collectif épouvantable. Et la nouvelle de cet événement va bientôt se répandre dans Grenade. Et on vous l'a dit tout à l'heure, les abencérages étaient très populaires à Grenade parce qu'ils avaient l'habitude de donner de l'or et de l'argent à la population, parce qu'ils étaient grands seigneurs d'une certaine manière. Et on entend la foule déjà, depuis l'Alhambra, on entend la foule hurler « Trahison ! Trahison !» Et l'on peut entendre, si l'on se rapproche de cette foule en colère, on peut entendre des phrases aussi terribles que celle-ci « Que meure le roi, qu'il meure ! Nous ne voulons pas d'un roi félon !» C'est le père de Boabdil, Moulay Hassan, et son frère Boabdil Moussa qui vont devoir se charger de calmer cette population en colère. Alors, dans le récit de Pérez de Hita, voilà ce qu'on nous dit. L'affrontement entre les trois morts convoitant le trône de Grenade, la capitulation de la ville, le départ de Boabdil et d'autres épisodes, tout ça se serait produit en très peu de temps. Finalement, ce crime aurait signé la fin de la présence arabe à Grenade. Et la reine dans cette affaire, puisqu'elle était un petit peu au centre de l'accusation qui avait conduit à l'assassinat collectif, eh bien, il semblerait que l'assassinat ait été suivi d'un procès sous forme d'ordalie en quelque sorte, un combat entre 8 chevaliers, 4 chevaliers qui ont accepté de défendre la reine et 4 accusateurs, les fameux aigris. Et ces derniers sont là pour essayer de, bien entendu, de faire accuser la reine, puisque c'est en quelque sorte le sort, c'est le ciel qui va décider de l'innocence ou non de la souveraine. Les défenseurs de la reine sont vêtus à la turque. En fait, ce sont de nobles castillans qui ont été appelés à l'aide par la reine et ils vont l'emporter dans le combat, ce qui va permettre de prouver l'innocence de la reine. Alors vous aurez bien compris que l'auteur de toute cette légende est un auteur chrétien, bien entendu, qui écrit à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle plus tard, et qui a tout intérêt à donner constamment le beau rôle aux castillans et aux chevaliers chrétiens, ce qui se passe depuis le début de cette histoire, bien entendu. Beaucoup plus tard, au printemps 1829, l'écrivain américain Washington Irving va se rendre à Grenade. Il va loger dans une partie de l'Alhambra qui à l'époque était complètement à l'abandon et où on pouvait loger des visiteurs. Et c'est là qu'il va trouver la matière de ses contes de l'Alhambra. Et on y trouve une référence, dans ses contes bien sûr, une référence à la célèbre légende. Voilà ce que nous dit Irving. Certains dénient tout fondement à cette histoire. Mais notre humble guide, Matteo, nous désigna le portillon par lequel, dit-on, ils furent introduits un à un et la fontaine de marbre blanc au centre de la salle où ils furent décapités. Il nous parle des abencérages. Il nous montra également de larges taches rougeâtres sur le sol, les traces de sang qui, selon la croyance populaire, ne s'effaceraient jamais. Comme nous l'écoutions avec intérêt, il ajouta qu'on entendait souvent la nuit dans la cour des lions une espèce de bruit indistinct comme un brouhaha, ponctué de temps en temps d'un tintement sourd, semblable à celui des chaînes heurtées dans le lointain. Ce n'était sans doute rien d'autre que le glouglou et le ruisseli des eaux qui, dans leur conduite, venaient sous le marbre alimenter les fontaines. Mais à en croire, le fils de l'Alhambra, c'était les esprits des abencérages assassinés qui revenaient chaque nuit sur les lieux du crime, invoquer la vengeance du ciel sur leurs meurtriers.
La légende de l'assassinat des membres du clan des Abencérages, voilà ce que vous propose cet après-midi Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est un voyage à la fois dans le sud de l'Espagne, à Grenade, et à la fois dans l'histoire que vous nous proposez cet après-midi, Franck Ferrand. La légende de l'assassinat des membres du clan des Abencérages à l'Alhambra. Alors, une vraie histoire ou une légende,
Franck? Un peu des deux, probablement. Vous savez, c'est une légende, ça c'est incontestable, mais c'est une légende qui puise ses sources dans un certain nombre de réalités historiques. Puisque d'abord, les Abencérages ont existé, ça c'est incontestable. C'est une des plus illustres lignées de cette époque et de cette civilisation. Ils ont souvent occupé des fonctions de vizirs, d'ambassadeurs. Ils étaient au service de ces souverains nasrides qui donc vont régner de 1284 à la chute de Grenade à 1492. Alors, est-ce qu'ils ont été les principaux instigateurs des intrigues politiques de l'époque? Ça dépend des points de vue, disons. Selon un historien qui s'appelle Luis Seco de Lucena, les Abencérages dirigeaient la vie politique du royaume de Grenade, qui avait été complètement déstabilisé par un certain nombre de conflits entre clans, et ils étaient au cœur de toute cette affaire. Pour Rachel Arrier, qui est spécialiste d'Al-Andalus, leurs activités politiques ont purement et simplement ruiné l'émirat de Grenade. Selon Francesco Vidal Castro, l'arrivée au pouvoir de ce sultan terrible, là, ce Boabdil, qui était soutenu au départ par les Abencérages, a marqué le début d'une période de bouleversement, je cite, de soulèvement, d'assassinat et d'emprisonnement de sultans et d'instabilité politique imposant à Grenade une crise gouvernementale permanente. Est-ce que les Abencérages, dans cette crise qui faisait que plus rien n'était sûr au sommet du pouvoir à Grenade, est-ce que les Abencérages ont eu véritablement un rôle dominant? C'est très difficile de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont sans doute eu leur part de responsabilité dans la chute du royaume nasride. L'instabilité politique était grande. Certains des faits historiques de l'époque et la chronique de la cour du sultanat ont incontestablement inspiré Pérez de Hita dans l'œuvre littéraire, dans le roman qu'il devait écrire un siècle plus tard. Ces faits ont encouragé à voir dans l'ouvrage de Pérez de Hita et dans un certain nombre d'autres récits similaires d'ailleurs, hein, puisque cette légende est reprise un peu partout, d'y voir le reflet d'une réalité historique. Bon, même je peux pas vous en dire beaucoup plus. On est très proche probablement de ce qui s'est passé. Est-ce que pour autant il s'agit de la vérité historique? Ça, c'est une autre affaire. Le meurtre, en tout cas, de deux Abencérages est attesté en 1462 au moment du conflit qui oppose le père de Bouabdil, Moulay Hassan, dont je parlais tout à l'heure, à l'émir Saad. Émir Saad, qui va ordonner l'exécution au mois de juillet du vizir Mufariti et de Yusuf ibn al-Sarraï pour un motif assez vague. Il n'aurait pas suffisamment aidé le sultan à défendre son royaume. Il y a eu d'autres traîtres ou prétendus traîtres qui se sont enfuis, notamment à Malaga. Et parmi ceux qui se sont enfuis, on relève toujours un ou deux membres de cette tribu des Abencérages. Donc c'est certain qu'ils ont joué un rôle trouble, qu'ils avaient une place éminente à la cour et que leurs retournements successifs ont joué un rôle, notamment dans cette instabilité sur le trône. On voit constamment des sultans détrônés qui reviennent sur leur trône, etc. Et ces vizirs Abencérages possèdent en quelque sorte les clés du royaume. Ce sont eux qui sont au cœur même de l'institution politique. Donc il n'est pas possible que tous ces bouleversements se passent sans qu'ils y prennent leur part. Et c'est possible, en effet, que le livre de Pérez de Hita relate ces événements. ne peux pas en dire beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est que si vous vous promenez là-bas dans la région, on va vous en parler de ce crime. Et que lorsque vous visitez l'Alhambra, forcément dans la cour des lions, on vous raconte l'histoire des taches de sang sur le bel albâtre. Ça fait partie évidemment de la tradition locale. Dans un guide de Grenade publié en 1764, voilà ce qu'on peut lire. Des hommes et des femmes viennent voir ce palais, arrivent en ce lieu, les yeux rivés sur les murs, regardant attentivement le sol pour voir la vasque de la fontaine, les ombres des malheureux chevaliers projetées sur les murs, leurs cadavres glissant à terre, et ils voient encore les taches de leur sang innocent dans la vasque. Il semblerait que, et ça c'est beaucoup plus, ça fait moins rêver, mais il semblerait que les taches qu'on constate sur l'albâtre de cette cour n'est pas grand-chose à voir avec du sang, que ce soit une corrosion assez naturelle en vérité. Mais évidemment, ça ne fait qu'alimenter la légende, c'est assez beau. Cette légende, elle a traversé les siècles du fait de son intensité, du fait de sa place historique également, puisqu'on est tout à fait à la fin de la présence du sultanat de Grenade, donc de l'émirat, devrais-je dire, pour être tout à fait exact. Donc évidemment, on aimerait y voir l'origine de la chute de la dynastie Nasride. En tout cas, le lieu est définitivement marqué par cette affaire, et c'est presque dommage d'une certaine manière, parce qu'il y aurait tant et tant d'autres belles histoires à raconter sur l'Alhambra. Il ne faudrait pas, me semble-t-il, que la violence des événements auxquels je viens de faire référence nous fasse perdre l'essentiel de vue. L'essentiel, c'est une harmonie quasiment souveraine, une harmonie suprême dans ses cours, dans ses jardins, dont les proportions sont parfaites, dont l'atmosphère est idéale. Nous sommes là aux portes de l'Orient, dans ce qu'il y a de plus occidental dans l'imaginaire oriental, et en même temps dans ce qu'il y a peut-être de plus raffiné dans l'architecture et dans les jardins de l'Orient. Bonjour Agnès Carayon.
Bonjour.
Je vous dis bonjour, mais nous nous sommes dit bonjour dès ce matin, de bonne heure, pour visiter l'exposition que vous présentez en ce moment à l'Institut du Monde Arabe. On y voit l'Alhambra, bien entendu, mais pas seulement, puisque l'exposition couvre de très nombreux siècles et une très très grande aire géographique jusqu'au bout, jusqu'aux confins de la Perse et même un peu au-delà.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous découvrons l'Alhambra, mais pas que, les jardins arabo-musulmans de façon générale avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Agnès Carayon, historienne chargée d'exposition à l'Institut du Monde Arabe et co-commissaire de l'exposition Jardin d'Orient de l'Alhambra au Taj Mahal à l'Institut du Monde Arabe, à voir jusqu'au 25 septembre.
Ah oui, à voir vraiment, car c'est un moment tout à fait hors du temps. Vous savez, il fait pas très beau là, c'est un printemps un peu grisâtre que nous vivons, que nous traversons en ce moment. Eh bien là, je vous assure que quand vous avez mis un pied dans cette exposition, vous êtes dans la lumière extraordinairement filtrée par les végétaux et par l'architecture de ces jardins orientaux, parce qu'il y a une architecture, on va y venir, on va parler de tout ça dans un instant. On a l'impression, parce qu'il n'y a quand même pas, ils n'ont pas été jusqu'à installer des diffuseurs de fragrances, mais on a l'impression de sentir tous ces parfums de l'Orient. On entend les petits oiseaux chanter, le vent dans les arbres, c'est absolument magnifique. C'est un rêve que vous offrez littéralement aux visiteurs, Agnès Carayon. Alors un mot peut-être de cette Alhambra que j'ai ensanglantée dans le récit introductif et qu'il ne faudrait surtout pas assimiler à trop de violence, parce qu'elle est d'abord un symbole de beauté et d'éternité.
Oui, de ce fait, les jardins de l'Alhambra sont probablement parmi les plus connus des jardins d'Orient. Ils ne ressemblent plus tellement probablement à ce qu'ils étaient à l'origine, mais il y a toujours cette notion de quiétude et de se balader dans les jardins. Je pense que ça a toujours été quelque chose.
Une cour qui s'appelle la cour des Myrtes, qui est peut-être l'une des plus belles qui existe dans toute l'architecture arabo-musulmane,
oui, tout à fait.
Avec notamment ces 5 arches qui sont d'une grâce absolue, d'une pureté invraisemblable, et qui sont tellement pures, tellement gracieuses, qu'elles se mêlent complètement aux végétaux. C'est ça peut-être le secret des jardins orientaux, non ? C'est cet accord permanent entre architecture et végétation ?
Oui, et puis il y a le rôle de l'eau aussi, qui particulièrement dans l'architecture andalouse, et notamment la période Nasride, a vraiment mis en valeur les grands bassins où l'architecture et les dentelles de l'architecture se reflétaient dans les bassins et la végétation bordait ces bassins. Voilà. Mais l'eau est vraiment la composante essentielle aussi. Dans ces
On y viendra tout à l'heure avec vous, mais ce qui est assez frappant dans cette exposition, c'est le degré de raffinement où ont pu aller un certain nombre de concepteurs de jardins orientaux qui vont reproduire les végétaux jusque sur les accessoires, jusque sur les tenues, sur les tapis, etc. C'est-à-dire qu'on voit progressivement les fleurs, les arbustes, on voit le végétal s'emparer des textiles et s'emparer de l'architecture. Tout ça pour créer une sorte de grand paradis. Après tout, le terme paradise en avestique, ça veut dire le jardin, si je ne m'abuse.
Ça désigne en fait un enclos de chasse qui est largement pourvu en végétation et en animaux. Donc c'est un petit peu un foisonnement de vie au milieu du désert. Et voilà, c'est cet enclos qui a donné le mot paradis et qui a désigné par la suite l'Éden, oui.
Alors c'est né en Perse tout ça, donc ce n'est pas un hasard si la langue dont est sorti ce mot, dont est issu ce mot paradis, est une langue persane. C'est que c'est la Perse qui va donner la première les grands jardins orientaux.
Alors il y avait une tradition des jardins probablement antiques en Mésopotamie, mais les jardins d'Orient tels qu'ils ont été reproduits par la suite, notamment en Perse, viendraient de la dynastie Achéménide. Donc c'est le roi Cyrus, le fondateur de la dynastie Achéménide au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui aurait le premier créé ces jardins avec un plan en croix qui a été largement avec de l'eau qui structure ces jardins. Et voilà, c'est la base du jardin oriental. Qui a été largement repris, adapté. On ne retrouve pas le même plan dans tous les territoires que nous traitons dans l'exposition, mais c'est quand même le principe de base.
Votre exposition est une exposition thématique et non chronologique, donc je vais balayer assez rapidement la chronologie, puis ensuite nous reviendrons à chacun de ces thèmes, dont le principal peut-être est celui de l'eau, vous en parliez tout à l'heure, on y vient dans un instant. Mais avant cela, nous constatons quand même... à la fois dans la tradition et grâce à l'archéologie, nous constatons la trace d'un certain nombre de jardins extrêmement anciens. Est-ce que les jardins suspendus de Babylone ont existé? Ça, c'est une autre...
Alors, il y existait a priori des jardins à Babylone, mais est-ce qu'ils étaient suspendus? Ça, la question demeure. Et les recherches actuelles, enfin, les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce sujet-là.
Alors, ensuite, c'est cette civilisation achéménide, c'est-à-dire on est là au 5e, 6e siècle avant notre ère, qui va développer les jardins de plus en plus en Orient, si je puis dire, hein, puisque jusque dans le centre et même dans l'est de la Perse, achéménide, qui était un peu, enfin bon, un petit peu différente de l'Iran actuel, quoique. Et ce modèle, vous nous parlez de ce modèle, de cette structure en croix, c'est-à-dire un grand jardin carré composé de quatre carrés autour d'une croix aquatique, d'une certaine manière, on va la retrouver, cette structure, un peu partout, et notamment à mesure de la conquête islamique. Parce que, évidemment, les Arabes se sont fait les champions, d'une certaine manière, de cette nouvelle mode végétale et architecturale.
De toute façon, les conquérants arabes ont conquis la Perse et ils ont été très impressionnés par le cérémonial sassanide, hein, c'est donc après les achéménides. Ils ont été très impressionnés par ce cérémonial et la finesse de cette civilisation. Et ils ont fait leur beaucoup de traits civilisationnels et notamment celui de l'art des jardins. Donc ils ont diffusé dans tout leur empire, effectivement.
Oui. Et c'est comme cet empire s'est constitué extrêmement vite, oui. On a vu peu à peu s'installer sur le pourtour méditerranéen un certain nombre de jardins. Alors, il y en a qui sont absolument mythiques, je pense à Bagdad, bien entendu. Il y a des jardins en Égypte, très importants. On va venir sur ces différents types de jardins. Et puis donc, en extrême Occident, très vite là encore, puisque le détroit de Gibraltar est franchi vraiment dans les décennies
début,
qui suivent la mort du prophète.
Au début du 8e siècle.
C'est
ouais.
Assez étonnant. On voit donc se répandre ces jardins qui ont peut-être été les plus beaux de tous. Est-ce qu'on peut dire qu'Al-Andalus a proposé un modèle archétypal des jardins orientaux?
Oui, et qui a été assez propre, en fait, qui a été assez différencié de celui qu'on trouvait en Perse, même si c'est toujours le jardin persan qui reste un petit peu le modèle. Mais c'est vrai qu'en Al-Andalus, et plus particulièrement à la fin de la période et à la période nasride, voilà, on a retrouvé, les Andalousies ont développé l'art des bassins qui reflétait vraiment l'architecture. C'est une notion que l'on retrouve moins en Perse, par exemple, où l'eau est plutôt traitée sous forme de canal. Mais vraiment, effectivement.
Parfois de canaux très étroits, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Oui, là. En Perse, c'est plutôt des canaux très étroits. Et de l'autre côté de la zone géographique, ce sont plutôt des grands bassins que l'on retrouve également au Maroc, d'ailleurs. Hein. On retrouve des grands bassins qui servent à l'irrigation, mais les jardins qui se structurent autour de ces grands bassins.
En visitant l'exposition ce matin, j'ai été très frappé par un certain nombre de représentations d'oasis qui m'ont rappelé des voyages de ma propre jeunesse dans les oasis du sud tunisien, notamment à Tozer, à Nefta, etc. Ces grandes palmeraies extraordinaires qui sont une sorte de représentation terrestre de ce que pourrait être le paradis, car vraiment la lumière y est merveilleusement filtrée, les verts atteignent une gradation, une palette absolument infinie. Ce sont des endroits merveilleux, ces grandes palmeraies, ces grandes oasis. Tout ça, ça signifie que en Orient et dans la région, dans les régions qui nous intéressent aujourd'hui, le végétal est rare, il est précieux, il a besoin pour se développer de l'eau, naturellement.
Oui, tout à fait. C'est la notion fondamentale. Et effectivement, l'oasis, c'est le jardin primitif, c'est le foisonnement de la vie au milieu du désert, et ça a fortement inspiré les concepteurs de jardins qui ont voulu recréer dans des fondations créées par l'homme ce foisonnement originel, effectivement.
Donc, alors cette eau qui permet de faire verdir le désert d'une certaine manière, cette eau, il faut aller la chercher, la puiser. Vous montrez très bien dans l'exposition les différentes méthodes. Alors, il y a la noria, bien entendu, qu'on connaît, ça c'est...
Oui. Ben alors effectivement, il y a d'autres techniques. Alors les Arabes ont également hérité des techniques des civilisations qu'ils ont précédées. Donc on retrouve les aqueducs romains, mais on retrouve en Perse aussi...
Qu'on a utilisé beaucoup, parce qu'il faut dire que les Romains avaient quand même largement essaimé sur le pourtour méditerranéen. Donc on conservait à l'époque de très bonnes traces encore. Enfin, il y avait
tout
des vestiges très importants.
Tout à fait, hein, tout à fait oui. Et ils ont développé d'autres techniques. Donc on montre dans l'exposition des manuscrits qui montrent des techniques ingénieuses pour capter l'eau. Et on parle également du système des kanats, qui est un système iranien aussi, qui a été créé au premier siècle, au premier millénaire, pardon, avant notre ère, et qui est un système de captation souterrain de l'eau. Donc il y a des canaux d'irrigation qui sont creusés sous le sol avec des puits.
Tout un chapelet de puits.
Avec tout un chapelet de puits pour pouvoir entretenir cette canalisation. Donc c'est un système qui est assez simple. Hein, c'est l'eau qui circule par gravitation, mais ça demande un entretien énorme et énormément de main d'œuvre pour pouvoir les créer. Et c'est un système qui a essaimé dans tout le monde oriental, que l'on retrouve également en Andalousie, par exemple.
Ce que j'aime beaucoup dans cette exposition, c'est que, j'allais dire, vous faites feu de tout bois. Vous utilisez tous les arts, toutes les techniques pour illustrer votre propos, et pour ce qui est notamment de ces machines d'extraction de l'eau, une extraction qui parfois demande de creuser très profondément, pour les évoquer, vous avez recours aussi bien à des photographies anciennes ou modernes, et même à des œuvres contemporaines, à des dessins, des gravures, de très beaux tableaux, hein, des toiles orientalistes magnifiques. Enfin, vous avez un très grand registre d'illustrations, si je puis dire. On se promène dans un monde idéal qui est un monde oriental, par définition.
Oui, tout à fait. C'est un monde oriental, mais parfois, effectivement, c'est aussi des voyageurs qui peuvent montrer les choses par les dessins qu'ils en ramènent ou par des photographies. Donc, c'est un parti pris que nous avons généralement à l'Institut du Monde Arabe. Nous faisons beaucoup d'expositions comme ça où on essaye de montrer plusieurs techniques artistiques pour illustrer notre propos et mélanger également les périodes de création, donc des œuvres contemporaines qui jouxtent des œuvres beaucoup plus anciennes.
La scénographie est particulièrement réussie, il faut le dire.
Oui, elle est très belle, elle met vraiment bien en valeur les œuvres.
Peut-être citer le scénographe.
C'est Jean-Julien Simoneau.
Oui, il a fait un travail magnifique parce qu'on est complètement immergé dans tout ça. Alors, vous me disiez ce matin, en me faisant visiter l'exposition avec Lorena, vous nous disiez que ce qu'il y a de spécifique au jardin oriental, c'est qu'il s'adresse à tous les sens, pas seulement comme les grands jardins occidentaux, en tout cas essentiellement à la vue. Et l'on a beaucoup travaillé, on a fait des émissions ici sur le nôtre, etc., pour expliquer à quel point la vue est le sens mis en avant par les paysagistes occidentaux. En Orient, il n'y a pas que la vue. Les sens sont mis en émoi, en alerte.
Oui, c'est vraiment une composante essentielle. C'est vraiment caractéristique des jardins d'Orient. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que ce soit beau, les plantes sont belles, mais on les choisit aussi pour leur odeur. Une plante, les fleurs sentent bon et la dimension olfactive est vraiment essentielle dans les jardins d'Orient. Les cyprès, par exemple, sont de très beaux arbres qui participent au dessin du jardin, mais ce sont également des arbres. Il y a son élévation, oui, ça donne toute une élégance, ça structure vraiment le jardin, mais c'est également un arbre qui a une odeur très agréable. Il y a le bruit également, la dimension sonore est très importante. Alors on entend le bruit de l'eau qui coule, ça apporte beaucoup de quiétude. Mais il y a également le chant des oiseaux. Les oiseaux sont des habitants classiques du jardin oriental et leur chant, notamment le rossignol, qui est probablement l'oiseau le plus connu, mais pas que. Il y a d'autres oiseaux habitent vraiment le jardin et apportent leur touche au jardin.
Alors à défaut de caresser les oiseaux qui ne se laissent pas toujours faire, on peut caresser l'eau. Il y a donc le toucher
également, bien entendu.
Et puis le goût.
Le goût avec les fruits. Voilà, dans les jardins orientaux, il y a des fruits qui amènent leur couleur et qui amènent leur beauté, mais ce sont également des fruits que l'on mange et qui sont savoureux et dont on apprécie la saveur, justement.
Et que l'on mange généralement, que l'on déguste à l'ombre de pavillons d'un raffinement effréné. Nous venons dans un instant à l'aspect architectural de ces jardins orientaux.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous nous baladons cet après-midi à travers les jardins orientaux. Avec votre invité Franck Ferrand, vous recevez Agnès Carayon, historienne chargée d'exposition à l'Institut du Monde Arabe et co-commissaire de l'exposition Jardin d'Orient de l'Alhambra au Taj Mahal. C'est à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 25 septembre.
Et oui, et c'est dedans, bien entendu, dans les grands espaces habituellement dédiés aux expositions de l'IMA, de l'Institut du Monde Arabe, mais c'est aussi dehors, oui. Car vous avez toute une partie de l'exposition qui se passe à ciel ouvert, Agnès Carayon.
Oui, ça c'est un principe fondateur un petit peu de l'exposition, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des murs, on voulait raconter l'histoire, on voulait raconter les codes du Jardin d'Orient, les évolutions, mais à l'extérieur, il y a la présentation d'un vrai jardin.
Un vrai jardin, qui permet avec une anamorphose stupéfiante,
il faut
le dire.
Oui, une anamorphose qui est une œuvre contemporaine insérée au milieu du jardin, et l'idée c'était vraiment que le visiteur puisse avoir la sensation du jardin après avoir appris les codes à l'intérieur. Oui.
C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'il faut que l'œil s'habitue pour percevoir le motif de l'anamorphose. L'anamorphose, c'est-à-dire que c'est un dessin complètement distordu que la perspective rend intelligible d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle une anamorphose. Et là, en l'occurrence, l'œil fait le travail moins vite que l'iPhone, que le téléphone ou l'appareil photo,
l'appareil
en tout
photo,
cas.
Oui.
C'est assez spectaculaire. Il suffit de mettre un appareil photo devant et là, lui, d'un seul coup, il vous dessine.
Oui, l'image est évidente, alors qu'avec l'œil, il faut faire un petit peu plus d'efforts.
C'est moins évident. C'est une petite anecdote assez drôle. Alors, tous ces jardins, bien entendu, se sont développés à tous les siècles. On parle d'un millénaire entier d'histoire et même au-delà, puisque vous nous parlez de quelques jardins contemporains. Tout ça dans des civilisations qui sont certes sœurs, mais différentes, très distinctes. Qu'est-ce qui fait l'unité de ce jardin oriental? Vous nous l'avez dit, c'est l'eau. Qui est centrale.
Le traitement de l'eau.
Et c'est ce dessin orthonormé, en quelque sorte, cette croix centrale.
Alors, qui n'est pas. Tous les jardins ne sont pas dessinés avec un plan en croix. Il y a des évolutions, il y a des adaptations, mais ce sont toujours des jardins avec des lignes rigoureuses. Il n'y a pas de petits chemins sinueux dans les jardins d'Orient. Il y a aussi, cette notion de jardin d'essence qui est très importante. Puis ce sont des dessins qui sont dessinés de façon rigoureuse, mais où la nature n'est pas taillée comme on peut le retrouver, par exemple, dans les jardins de Versailles, les jardins de la Française.
La structure est très rigoureuse,
voilà,
mais on laisse le végétal s'épanouir d'une certaine manière. C'est assez différent de notre conception occidentale, ou en l'occurrence, disons, française.
Oui, tout à fait.
Ou même italienne d'ailleurs. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que l'architecture joue un rôle essentiel dans ces jardins. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des pays chauds, où l'on vit essentiellement dehors, et où on ne peut profiter véritablement d'un jardin qu'à partir du moment où on a des endroits où l'on peut s'abriter, se mettre à l'ombre. Ça, ce sont les pavillons.
Tout à fait, effectivement, nous parlons de pays de soleil, donc on se protège du soleil. On ne pratique pas un jardin d'Orient comme on pratique un jardin anglais. Dans un jardin anglais, on se balade vraiment. Dans un jardin d'Orient, on reste à l'abri d'un pavillon qui est largement ouvert sur le jardin, qui domine la pièce d'eau, qui est l'élément majeur du jardin. Et c'est depuis ce pavillon que l'on peut vraiment jouir du jardin. Donc le pavillon est un bâtiment essentiel, inhérent au jardin d'Orient, et que l'on retrouve aussi bien, pareil, hein, aussi bien dans l'Occident musulman que dans l'Orient musulman.
Et puisque le végétal est une des choses les plus difficiles à obtenir et à entretenir dans un pays très chaud, c'est un signe de richesse aussi, et donc de pouvoir. Et ce qui est assez étonnant, vous nous le montriez ce matin magnifiquement grâce aux très belles œuvres qui émaillent l'exposition, hein, parce qu'il y a des fontaines entières, vous avez des lions de marbre, enfin tout ça, tout ça est somptueux, c'est que ces jardins sont d'abord peut-être et avant tout des lieux de pouvoir, interdits au public d'ailleurs dans un premier temps.
Oui, les jardins orientaux pendant de nombreux siècles, hein, jusqu'à la moitié du 19e siècle, étaient des jardins privés, qui étaient réservés à une élite, hein. Seuls les personnages importants pouvaient se permettre d'avoir des jardins. Voilà, faire fleurir le désert, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il fallait avoir les moyens financiers, les moyens techniques pour pouvoir avoir ces jardins. Et donc, c'était des lieux de pouvoir, effectivement, des lieux d'ostentation où le souverain montrait son pouvoir, montrait son autorité, où il organisait de grandes réceptions, notamment face à des ambassadeurs. Et c'était un petit peu l'équivalent du palais. On montrait aussi bien les richesses de sa salle du trône que les richesses de son jardin.
Ce sont des palais, j'allais dire à ciel ouvert, en tout cas à murs ouverts.
Tout à fait,
c'est ça.
Tout à fait.
Avec tous les raffinements qui peuvent aller avec, bien entendu, vous montrez de très belles étoffes, que ce soit des tentures, des toiles de tente aussi d'ailleurs, des caftans magnifiques, tout ça à motif floral. Et comme vous me le faisiez remarquer très justement, c'est pas simplement une idée d'ornementation, c'est la volonté de s'accorder en quelque sorte le plus possible au végétal et au jardin, de créer une sorte de grande continuité.
C'était vraiment l'idée, effectivement, c'était les souverains moghols qui sont arrivés à ce raffinement extrême. Les souverains moghols sont connus pour leur art très raffiné des jardins. Ils étaient tellement amoureux des jardins qu'ils ne se sont pas contentés de créer des jardins, mais qu'ils ont réellement créé des vêtements avec des motifs floraux très développés, avec l'idée de s'envelopper du jardin. Donc c'est vraiment, ce n'est pas juste un motif floral un peu gratuit, si je puis dire. L'idée, c'est vraiment de prendre le jardin avec soi et de s'en envelopper.
Vous nous parlez des jardins moghols, dont le plus célèbre est celui du Taj Mahal, bien entendu, mais il est loin d'être le seul, loin d'être le seul. Je vous faisais remarquer ce matin qu'il y a en France, pas très loin de Paris, un jardin moghol absolument inouï, avec des temples, des bassins, c'est tout à fait extraordinaire, sur plusieurs hectares. Ce sont les jardins moghols du château du Champ de Bataille, dans l'Eure, hein, entre Louviers et Évreux, qui ne sont pas dans l'exposition, mais par ailleurs, vous expliquez dans l'exposition que ces jardins orientaux ont inspiré un certain nombre de paysagistes européens.
Oui, tout à fait. Alors le plus célèbre est Jean-Claude Nicolas Forestier, qui a vraiment théorisé et qui est un des théorisateurs les plus importants pour les paysagistes d'aujourd'hui, qui a été fasciné par l'art des jardins arabo-andalous et qui a voulu les conserver, mais les raccrocher à l'idée d'urbanisme, de parc public, et donc qui a un petit peu fait la transition entre la tradition de ce jardin privé avec son dessin et l'idée d'un parc public relié au reste de la ville.
Alors il y a, comme dans toutes les expositions maintenant, me direz-vous, mais de très beaux films qui sont projetés, etc., pas mal de photos qui nous donnent des aperçus de célèbres jardins en Afghanistan, par exemple.
Oui, alors Babur, qui est le fondateur de la dynastie
moghole. C'est un nom qu'il fallait citer, hein, parce que Babur joue un rôle important.
Babur était vraiment un roi jardinier. Il adorait les jardins. Il a été très soucieux d'en créer dans tout son empire. Il était soucieux des plantes que l'on y plantait, du dessin. Donc, ses mémoires sont émaillées de références aux jardins qu'il a créés, aux réceptions qu'il y faisait. Et donc Babur a créé à Kaboul un jardin qui s'appelle le Bar-e-Babur, le jardin de Babur, qui était son jardin préféré. Et donc oui, on parle, et ce jardin a été restauré récemment en 2013 par la Fondation Aga Khan, qui restaure d'autres jardins.
On tremble, comme pour beaucoup d'autres sites, pour les grands jardins syriens en ce moment. On ne sait pas dans quel état ils vont sortir du conflit actuel. Ce sont quand même des jardins qui sont parmi les plus beaux, là encore, hein, des jardins orientaux.
Oui, alors là, on retrouve notamment des fresques dans la grande mosquée de Damas, avec la fresque du Barada qui montre ce foisonnement de jardins qui entourait la ville. Il y a une rivière qui s'appelle le Barada qui alimentait la ville de Damas, enfin qui alimente la ville de Damas, et où il y avait des jardins luxuriants qui ont particulièrement marqué l'imaginaire des premiers conquérants arabes, en fait. Donc oui, enfin Damas était aussi une ville construite autour d'une tradition de cours. Toute la vieille ville de Damas est construite autour de cours qui s'imbriquent les unes aux autres. Et la cour est l'expression du jardin le plus simple que l'on retrouve dans toutes les villes, dans tout le monde oriental.
Un des aspects les plus intéressants, c'est ce que sont devenus ces jardins orientaux sous l'impulsion de la colonisation. Et dans les pays fortement colonisés, je pense à l'Algérie bien entendu, on a vu naître des jardins publics là pour le coup.
Oui, tout à fait. Jusqu'au 19e siècle, donc la notion de jardin public n'était pas du tout fréquente ni commune en Orient. Et c'est vraiment sous l'impulsion des colons que cette notion-là est arrivée. Paris est devenu un peu l'archétype de la ville moderne avec l'hygiénisme. Il fallait que la population ait des espaces pour se promener, pour prendre l'air. Et cette idéologie est arrivée avec les colonisateurs, donc dans les pays arabes. Donc il y a effectivement eu cette introduction des parcs publics qui aujourd'hui sont très clairement appréciés et complètement dans la population des villes, c'est totalement approprié.
Alors l'exposition remonte très très loin dans le passé, on l'a compris, à la plus haute antiquité. Elle vient très près dans le présent aussi, à travers un certain nombre d'exemples, que ce soit au sultanat d'Oman, que ce soit en Égypte ou même au Maroc. Enfin, il y a des exemples très récents aussi.
Ce que nous avons voulu montrer, c'est que cette tradition des jardins orientaux peut avoir vraiment un héritage dans le monde de demain, et que les jardins traditionnels peuvent être une source d'inspiration pour les paysagistes d'aujourd'hui. Ce sont des jardins qui ont une gestion très rigoureuse de l'eau. Ce sont des jardins où les plantes sont adaptées au climat. Et donc ce sont des préoccupations qui s'intègrent parfaitement avec les notions de durabilité que l'on rencontre aujourd'hui. Et donc ces jardins-là peuvent parfaitement s'adapter à des créations contemporaines. Et donc nous avons essayé de montrer plusieurs exemples qui sont très différents, mais effectivement en Oman, en Algérie, au Maroc, en Libye, voilà, des exemples très différents, mais qui montrent qu'on peut prendre son inspiration dans ces jardins-là.
Merci beaucoup Agnès Carillon de
nous
avoir fait visiter cette exposition deux fois en ce qui me concerne dans la même journée. L'exposition s'appelle Jardin d'Orient, de l'Alhambra au Taj Mahal, donc à l'Institut du Monde Arabe. C'est jusqu'au 25 septembre 2016. Je vous conseille, nous dit Nathalie via Twitter, je vous conseille la visite du site de la Médina Al-Zahra de Cordoue pour comprendre toute cette période d'Al-Andalus. Ce site est, semble-t-il, magnifiquement fait. Et puis, Marianne nous rappelle, mais vous me l'aviez fait remarquer pendant une interruption tout à l'heure, justement, Agnès Carillon, Marianne nous dit que la légende des abencérages a inspiré à Châteaubriant un récit magnifique qui s'appelle « Les aventures du dernier abencérage ». C'est vrai, il ne faut jamais manquer de citer Chateaubriand. Et puis, puisque nous revenons à Al-Andalus, aux abencérages et à ce terrible crime de l'Alhambra, je vous rappelle que c'est un des articles de la revue Histoire et Civilisation, dont le numéro 17 est en ce moment en kiosque. Donc ça, c'est le crime à l'Alhambra, mais dans ce numéro, il est question de bien d'autres choses, notamment du mythe de Faust, qui me paraît très intéressant. Vous savez, on a fait récemment une émission sur Arnold Toynbee, et Toynbee avait fait du mythe de Faust un des archétypes les plus importants de l'histoire. Mais là, il y a un bel article. Il y a également des articles sur l'Antiquité romaine, à travers le pain qu'on distribuait à la population, à la plèbe, hein, c'est-à-dire au petit peuple à Rome, pour éviter les trop grosses révoltes populaires. On y parle, bien entendu, de la Saint-Barthélemy. Je dis bien entendu parce que c'est le dossier du mois, hein, cette Saint-Barthélemy du 24 août 1572, dont on aura l'occasion de parler, nous, bientôt. Et puis, on y parle aussi de Bismarck, le fondateur de l'Allemagne, le chancelier Bismarck. Ça, d'un seul coup, ça fait nettement moins rêver que les jardins orientaux.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous explique les origines du passeport. À tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec aujourd'hui une question pour vous, Franck, qui est signée Emma. Emma vous envoie un mail sur europe1.fr. Elle voudrait connaître les origines du passeport.
Oh ben, il y a des passeports à peu près à toutes les époques. Vous savez, ça remonte très, très haut, ça. Le passeport, c'est ce qui permet de passer non pas les ports, mais les portes, n'est-ce pas? Les portes des villes. C'est une sorte de laissez-passer d'une certaine manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, ces passeports étaient surtout utilisés pour contrôler le vagabondage et, d'une façon plus générale, les mouvements migratoires. Ce passeport était un moyen pour les souverains de savoir à peu près qui passait, qui circulait dans leurs états, avec à l'époque une mosaïque très complexe et des régimes juridiques tellement compliqués qu'il n'était pas possible d'avoir un passeport uniformisé. Chacun délivrait des passeports qui relevaient de son propre droit. Donc c'était une pagaille terrible à laquelle met fin la Révolution en 1791, puisque les députés français, au nom de la liberté de circulation, vont abolir le passeport, pas pour longtemps. Ça fait partie des grandes idées de 1791 qui sont abandonnées dès 1792, il faut bien le dire. Alors, c'est avec le chemin de fer, évidemment, que le passeport va prendre une importance considérable, puisque au moment où la circulation des biens, mais surtout des personnes, se multiplie, il faut être capable de savoir qui circule, comment. Donc là, on va commencer à essayer d'aligner, entre les grands pays européens, les formalités de contrôle. D'autant plus que, à mesure qu'avance le 19e siècle, on voit naître les mouvements socialistes, anarchistes, etc. On a des craintes de troubles à l'ordre public. C'est aussi une grande période de migration, on le sait, avec les départs pour les États-Unis, mais pas seulement, hein. Tous les ouvriers, les gens qui n'ont pas de moyens, qui vont essayer d'aller chercher un peu de travail ailleurs. Et donc, on a de très grands mouvements de population. Tout ça va amener les autorités à opérer un retour au contrôle beaucoup plus strict des frontières, surtout dans une période de fort nationalisme qui précède et qui accompagne la Première Guerre mondiale. Au début des années 20, la Société des Nations tente une uniformisation avec le format du passeport en livret, hein, forme de livret comme on voit aujourd'hui, 1922. On met aussi en place le passeport Nansen en faveur de nombreux réfugiés chassés de leur pays. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'ONU dans les années 60-70 pour aboutir à l'uniformisation mondiale du système des passeports. Vous voyez que tout ça est, somme toute, très récent.